Anatole France, histoire comique. C'était dans une loge d'actrice à l'Odéon. Sous la lampe électrique, Félicie Lanteuil, la tête poudrée, du bleu aux paupières, du rouge aux joues et aux oreilles, du blanc au cou et aux épaules, donnait le pied à Madame Michon, l'habilleuse, qui lui mettait de petits souliers noirs à talons rouges. Le docteur Trublet, médecin du théâtre et ami des actrices, appuyait sur un coussin du divan son crâne chauve et les mains jointes sur le ventre croisait ses jambes courtes. Il interrogeait. « Quoi encore, ma chère enfant? Est-ce que je sais? Des étouffements, des vertiges, et tout d'un coup une angoisse comme si j'allais mourir. Or, c'est même ça le plus pénible. » Êtes-vous prise, quelquefois, d'une soudaine envie de rire ou de pleurer, sans cause apparente, sans raison? Ça, je peux pas vous dire, parce que dans la vie, on a tant de raisons de rire ou de pleurer. Êtes-vous sujette à des éblouissements? Non, mais imaginez-vous, docteur, que je crois voir la nuit, sous les meubles, un chat qui me regarde avec des yeux de braise. « Tâchez de plus rêver de chat, » dit Madame Michon, « parce que c'est mauvais signe. Voir un chat, ça annonce trahison par des amis et perfidie de femme. Mais ce n'est pas en rêvant que je vois un chat, c'est tout éveillé. » Trublet, qui n'était de service à l'Odéon qu'une fois par mois, y venait en voisin presque tous les soirs. Il aimait les comédiennes, prenait plaisir à causer avec elles, leur donnait des conseils et jouissait de leur confiance avec délicatesse. Il promit à Félicie de lui faire tout de suite une ordonnance. « Ma chère enfant, nous soyons l'estomac et vous ne verrez plus de chat sous les meubles. » Madame Michon rectifiait le corset. Et le docteur, subitement assombri, la regardait qui tirait sur les lacets. « Oh, ne froncez pas le sourcil, docteur, » dit Félicie. « Je ne me sers jamais. Avec la taille que j'ai, ce serait vraiment bête de ma part. » Et elle ajouta, pensant à un meilleur camarade de théâtre, « C'est beau pour Fagette, qui n'a ni épaule ni hanche. Elle est toute droite. Mais, Michel, tu peux gagner encore un peu. » « Oui, je sais que vous êtes l'ennemi des corsets, docteur. Je ne peux pourtant pas m'habiller comme les femmes esthètes avec des langes. Venez passer votre main, vous verrez que je ne me sers pas trop. » Il se défendit d'être l'ennemi des corsets, ne condamnant que les corsets trop serrés. Il déplora que les femmes n'eussent aucun sens de l'harmonie des lignes et qu'elles attachassent à la finesse de la taille une idée de grâce et de beauté, sans comprendre que cette beauté consistait tout entière dans les molles inflexions par lesquelles le corps, après avoir fourni le superbe épanouissement de la poitrine, s'amincit lentement au-dessous du thorax pour se magnifier ensuite dans l'ample et tranquille évasement des flancs. « La taille, dit-il, la taille, puisqu'il faut employer ce mot affreux, doit être un passage lent, insensible et doux entre les deux gloires de la femme, sa poitrine et son ventre. Et vous l'étranglez stupidement, vous vous défoncez le thorax qui entraîne les sangs dans sa ruine, vous vous applaudissez les fausses côtes, vous vous creusez un horrible sillon au-dessus du nombril. Les négresses qui se taillent les dents en pointe et qui se fendent les lèvres pour y introduire un disque de bois se défigurent avec moi de barbarie. Car enfin, on conçoit qu'il reste encore de la splendeur féminine à une créature qui s'est passé un anneau dans les cartilages du nez dont la lèvre est distendue par une rondelle d'acajou, grande comme ce pot de pommade. Mais la dévastation est entière quand la femme exerce ses ravages dans le centre sacré de son empire. Et insistant sur un sujet qui lui tenait à cœur, il reprit une à une les déformations du squelette et des muscles causées par le corset, et fit des descriptions imagées et précises, des peintures lugubres et bouffonnes. Nanteuil riait en écoutant. Elle riait parce que, étant femme, elle avait du penchant à rire des laideurs et des misères physiques, parce que, rapportant tout à son petit monde d'artistes, chaque difformité décrite par le docteur lui rappelait une camarade de théâtre et s'imprimait dans son esprit en caricature, et parce que, se sachant bien faite, elle se réjouissait de son jeune corps en se représentant toutes ces disgrâces de la chair. Riant d'un rire clair, elle allait par la loge vers le docteur, entraînant Madame Michon, qui tenait les lacets comme des rênes, avec un air de sorcière emportée au sabbat. « Mais restez donc tranquille, » fit-elle. Et elle objecta que les femmes de la campagne, qui ne mettaient que pas de corset, étaient encore plus abîmées que les femmes de la ville. Le docteur reprocha amèrement aux civilisations occidentales leur mépris et leur ignorance de la beauté vivante. Trublet, né dans l'ombre des tours de Saint-Sulpice, était allé, jeune, exercer la médecine au Caire. Il en avait rapporté un peu d'argent, une maladie de foi et la connaissance des mœurs diverses des hommes. En son âge mûr, de retour au pays natal, il ne quittait plus guère sa vieille rue de Seine et prenait grand plaisir à vivre, un peu triste seulement de voir ses contemporains si mal habiles à se reconnaître dans le déplorable malentendu qui, voilà 18 siècles, brouilla l'humanité avec la nature. On frappa, une voix de femme cria du couloir « C'est moi !» Félicie, tandis qu'elle passait sa jupe rose, pria le docteur d'ouvrir la porte. Madame Douls entra, pesante, laissant à l'abandon son corps massif qu'elle avait su longtemps rassembler sur la scène et tendre à la dignité des mères nobles. « Bonjour, mignonne, bonjour, docteur. Tu sais, Félicie, je ne suis pas complimenteuse. Eh bien, je t'ai vue avant-hier et je t'assure que dans le 2 de la mère confidente, tu fais des choses très bien et qui ne sont pas faciles. » Nanteuil sourit des yeux et, comme il arrive toujours quand on reçoit un compliment, elle en attendit un autre. Madame Douls, invitée par le silence de Nanteuil, murmura de nouvelles louanges. « Mais des choses excellentes, des choses personnelles. Vous trouvez, Madame Douls, tant mieux, parce que je ne me sens pas bien, ce rôle-là. Et puis quand la grande Perrin m'ôte tous mes moyens. Ah, c'est vrai, quand je m'assois sur les genoux de cette femme-là, ça me fait un effet. Vous ne savez pas toutes les horreurs qu'elle me dit à l'oreille pendant que nous sommes en scène. Elle est enragée. Je comprends tout, mais il y a des choses qui me dégoûtent. Michon, est-ce que le corset ne fonce pas trop dans le dos à droite ? Ma chère enfant, s'écria Trublet avec enthousiasme, mais vous venez de prononcer une parole admirable. Laquelle ? Demanda simplement Nanteuil. Eh bien, vous avez dit. Je comprends tout, mais il y a des choses qui me dégoûtent. Oui, vous comprenez tout, les actions et les pensées des hommes vous apparaissent comme des cas particuliers de la mécanique universelle. Vous n'en concevez ni haine ni colère. Mais il y a des choses qui vous dégoûtent. Vous avez de la délicatesse, et il est bien vrai que la morale est affaire de goût. Mon enfant, oh, je voudrais comprendre ça aussi sainement que vous à l'Académie des sciences morales. Oui, vous avez raison. Les instincts que vous attribuez à votre camarade, il est aussi vain de lui reprocher que de reprocher à l'acide lactique d'être un acide à fonction mixte. Qu'est-ce que vous dites ? Oh, je dis que nous ne pouvons plus louer ni blâmer aucune pensée, aucune action humaine, une fois que la nécessité de ces actions et de ses pensées nous a démontré. Alors vous approuvez les mœurs de la grande Perrin, vous, un homme décoré, mais c'est du propre. Ce docteur se souleva et dit, « Mon enfant, prêtez-moi, je vous prie, un moment d'attention. Je vais vous faire un récit instructif. Autrefois, la nature humaine était différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Il y avait non seulement des hommes et des femmes, mais aussi des androgynes, c'est-à-dire des êtres qui réunissaient en eux les deux sexes. Ces trois sortes d'hommes avaient 4 bras, 4 jambes et 2 visages. Oh, ils étaient robustes et tournaient rapidement sur eux-mêmes comme des roues. Leur force leur inspira l'audace de combattre les dieux à l'exemple des géants. Jupiter ne pouvant souffrir une telle insolence.
Michon, est-ce que la jupe ne traîne pas trop à gauche? Demanda Nanteuil.
Résolu, poursuivit le docteur, de les rendre moins forts et moins hardis. Il sépara chaque homme en deux, de manière qu'il n'eut plus que deux bras, deux jambes et une tête, et la race humaine fut dès lors ce qu'elle est aujourd'hui. Chacun de nous n'est donc qu'une moitié d'homme qui a été séparé de son tout, comme on divise une sole en deux parties. Ces moitiés cherchent toujours leur moitié. L'amour que nous avons les uns pour les autres n'est que la force qui nous pousse à réunir nos deux moitiés pour nous rétablir dans notre ancienne perfection. Les hommes qui proviennent de la séparation des androgynes aiment les femmes, et les femmes qui ont cette même origine aiment les hommes. Mais les femmes qui proviennent de la séparation des femmes primitives n'accordent pas grande attention aux hommes et sont portées vers les femmes. Ne soyez donc plus surprise quand vous voyez...
C'est vous, docteur, qui avez imaginé cette histoire-là? Demanda Nanteuil en piquant une rose à son corsage.
Le docteur se défendit avec force d'en avoir rien inventé. Au contraire, il en avait, disait-il, retranché une partie.
Non, tant mieux, s'écria Nanteuil, parce que je vais vous dire, celui qui a trouvé ça n'est pas malin.
Il est mort, dit Trublet. Nanteuil exprima de nouveau le dégoût que lui inspirait sa partenaire. Mais Madame Doulce, qui était prudente et déjeunait quelquefois chez Jeanne Perrin, détourna la conversation.
Enfin, mignonne, tu le tiens, le rôle d'Angélique. Seulement, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Il faut garder le geste un peu étroit, la taille un peu raide. C'est le secret des ingénues. Défie-toi de ta jolie souplesse naturelle. Les jeunes filles du répertoire doivent être un rien poupé. C'est le style. Le costume le veut. Vois-tu, Félicie, ce que tu dois observer avant tout, quand tu joues dans La Mère confidente, qui est une délicieuse pièce.
Félicie l'interrompit.
Oh, moi, vous savez, pourvu que j'ai un bon rôle, la pièce m'en fiche, puis je me pas bien, Marivaux. Ah, vous riez, docteur. Est-ce que j'ai fait une gaffe? Ce n'est pas de Marivaux, la mère confidente?
Mais si!
Alors, mais vous cherchez toujours à m'embrouiller. Je disais que cette Angélique m'agace. Je voudrais quelque chose de plus étoffé, de plus en dehors de... Oh, ce soir surtout, ce rôle m'horripile.
« C'est une raison de croire que tu le joueras très bien, ma mignonne, » dit Madame Doulce. Et elle professa.
« Nous n'entrons jamais mieux dans nos rôles que lorsque nous y entrons de force, et malgré nous. Oh, je pourrais vous en citer de nombreux exemples. Et moi-même, dans la vie ordinaire d'Austerlitz, j'ai étonné la salle entière par l'accent de ma gaieté. Au moment où l'on venait de m'annoncer que mon pauvre Doulce... si grand artiste et si bon mari, avait été foudroyé d'apoplexie à l'orchestre de l'opéra en saisissant son cornet à piston.
Mais pourquoi veut-on absolument que je ne sois qu'une ingénue? Demanda Nanteuil, qui voulait être aussi une amoureuse, une grande coquette et jouer tous les rôles.
Et cela se comprend, poursuivit obstinément Madame Doulce. L'art de la comédie est un art d'imitation. Or, ce qu'on n'éprouve pas, on l'imite d'autant mieux.
Ne vous faites pas d'illusions, mon enfant, dit le docteur à Félicie. Quand on est une ingénue, on le reste à jamais. On est Angélique ou Dorine, Célimène ou Madame Pernelle. Au théâtre, les unes ont toujours 20 ans, les autres toujours 30, les autres toujours 60. Vous, mademoiselle Nanteuil, vous aurez toujours 18 ans et vous serez toujours une ingénue.
Je suis très contente de mon emploi, répondit Nanteuil, mais vous ne pouvez pas exiger que j'interprète avec le même plaisir toutes les ingénues. Il y a un rôle, par exemple, que je voudrais bien jouer. C'est Agnès de l'école des femmes. Au seul nom d'Agnès, le docteur ravi murmura dans ses coussins. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Agnès, voilà un beau rôle, s'écria Nanteuil. Je l'ai demandé à Pradel. Pradel, directeur du théâtre, était un ancien comédien, avisé bonhomme, dépouillé d'illusions et ne nourrissant point de trop hautes espérances. Il aimait la paix, les livres et les femmes. Nanteuil n'avait qu'un seul ouais de Pradel, et elle parlait de lui sans malveillance, avec une honnête liberté. « Il a été ignoble, il a été dégoûtant, infect, dit-elle. Il m'a refusé le rôle d'Agnès pour le donner à Falempin. Faut dire aussi que je ne lui avais pas demandé comme il fallait. Oh, tandis que Falempin, elle sait la manière, elle, je vous en réponds. Mais ça m'est égal, si Pradel ne me laisse pas jouer Agnès, je l'envoie promener, lui et son sale guignol. » Madame Douls continua de prodiguer ses enseignements inécoutée. Comédienne de mérite, mais vieillie, usée, jamais plus engagée, elle donnait des conseils aux débutantes, leur écrivait leurs lettres et gagnait ainsi l'unique repas qu'elle faisait presque chaque jour, le matin ou le soir. Félicie, tandis que Madame Michon lui nouait un velours noir autour du cou, interrogea Trublet. « Docteur, vous dites que mes vertiges viennent de l'estomac, vous êtes sûr ?» Avant que Trublet eût pu répondre, Madame Douls s'écria que les vertiges venaient toujours de l'estomac et qu'elle avait aussi un, 2 ou 3 heures après les repas, des gonflements douloureux. Puis elle demanda un remède au docteur. Cependant, Félicie réfléchissait car elle était capable de réflexion. Tout à coup, « Docteur, je voudrais vous faire une question que vous trouvez peut-être drôle, mais je voudrais bien savoir si, de connaître tout ce qu'il y a dans le corps, d'avoir vu toutes les affaires que nous avons au-dedans de nous, ça ne vous gêne pas des moments avec les femmes? Il me semble que d'avoir l'idée de tout ça, ça devrait vous dégoûter. » Trublet, du fond de ses coussins, envoya un baiser à Félicie. « Ma chère enfant, il n'y a pas de plus fin, de plus riche, de plus beau tissu que la peau d'une jolie femme. C'est ce que je me disais à l'instant en contemplant votre nuque, et vous concevez aisément que, sous cette impression, elle lui fit une grimace de guenon dédaigneuse. Mais croyez-vous que c'est spirituel de répondre par des imbécilités à une question sérieuse? Eh bien, mademoiselle, puisque vous le voulez, je vais vous faire une réponse instructive. Il y a 20 ans, nous avions à l'hôpital Saint-Joseph, dans la salle d'autopsie, un vieux surveillant ivrogne, le père Rousseau, qui tous les jours à 11 heures du matin déjeunait au bord de la table sur laquelle le cadavre était étendu. Il déjeunait parce qu'il avait faim. Ceux qui ont faim, rien ne les empêche de manger dès qu'ils ont de quoi. Seulement le père Rousseau disait: « Je ne sais pas si c'est l'air de la salle qu'il veut, mais je ne pourrais rien manger que de frais et d'appétissant. »« Ah, je comprends, dit Félicie, il vous faut des petites bouquetières. Mais c'est défendu, vous savez. Mais vous êtes là assis comme un turc et vous ne m'avez pas fait mon ordonnance. » Elle l'interrogea du regard. « L'estomac, où est-ce au juste ?» La porte était restée entr'ouverte. Un jeune homme, très joli, très élégant, la poussa, et après avoir fait 2 pas dans la loge, demanda gentiment s'il pouvait entrer. « Vous ? Vous ?» dit Nanteuil. Et elle lui tendit la main qu'il baisa avec plaisir, correction et fatuité. Il traita Madame Douls sans égard particulier et demanda: « Comment vous portez-vous, docteur Socrate ?» C'est ainsi qu'on l'appelait parfois Trublet à cause de sa face camuse et de sa parole subtile. Trublet, lui désignant Nanteuil, « Bien, monsieur de Ligny, voici une jeune personne qui ne sait pas précisément si elle a un estomac. Oh, la question est grave. Nous lui conseillons de se rapporter pour la réponse à la petite fille qui mangeait trop de confiture. Sa maman lui disait « Tu te fais mal à l'estomac ». Et elle répondit « Mais c'est les dames qui ont des estomacs, les petites filles n'en ont pas ». « Oh mon Dieu, que vous êtes bête, docteur !» s'écria Nanteuil. « Oh, puissiez-vous dire vrai, mademoiselle, la bêtise, c'est l'aptitude au bonheur. C'est le souverain contentement, c'est le premier des biens dans une société policée. » « Mais vous êtes paradoxal, mon cher docteur, observa M. de Ligny. Mais je vous accorde qu'il vaut mieux être bête comme tout le monde que d'avoir de l'esprit comme personne. » Et c'est vrai ce qu'il dit là, Robert, s'écria Nanteuil, sincère et pénétré. Et elle ajouta d'un ton méditatif. Il y a moins une chose certaine, docteur, c'est que la bêtise empêche souvent de faire des bêtises. Oh, j'ai remarqué bien des fois, hommes ou femmes, ce ne sont pas les plus bêtes qui agissent le plus bêtement. Ainsi, il y a des femmes intelligentes qui sont stupides avec les hommes. Ah, vous voulez dire celles qui ne peuvent pas s'en passer. Oh, on ne peut rien te cacher, mon petit Socrate. Ah, soupira la grande douce, quelle terrible servitude. Toute femme qui ne domine pas ses sens est perdue pour l'art. Nanteuil haussa ses jolies épaules, encore un peu pointues de jeunesse. Oh, oh la grande aïeule, oh, n'essayez donc pas d'abrutir la petite classe. En voilà des idées. De votre temps, est-ce que les comédiennes dominaient leur... comment avez-vous dit ça? Allons donc, mais elles les dominaient? Pas du tout. S'apercevant que Nanteuil devenait orageuse, la grande douce se retira avec prudence et dignité. Et dans le couloir, elle fit encore une recommandation. Ma mignonne, souviens-toi de jouer Angélique en bouton de rose. Le rôle l'exige. Mais Nanteuil, agacé, ne l'écoutait pas. « C'est vrai, » dit-elle en s'asseyant devant sa toilette. « Elle me fait bouillir, la vieille douce, avec sa morale. Elle croit qu'on a oublié ses histoires. Elle se trompe. Madame Raveau les raconte 6 fois par semaine. Tout le monde sait qu'elle avait réduit son musicien de mari à un tel état d'épuisement qu'un soir, il tomba dans son cornet à piston. Et ses amants ? Des hommes superbes demandaient à Michon, en moins de 2 ans, elle en faisait des souffles, des ombres, et voilà comment elle les dominait, c'est... Et si on était venu lui dire qu'elle était perdue, pour l'art... Le docteur Trublet tendit vers Nanteuil, comme pour l'arrêter, ses 2 mains ouvertes. Mais ne vous indignez pas, mon enfant, Madame Douce est sincère. Elle aimait les hommes, maintenant elle aime Dieu. On aime ce qu'on peut, comme on peut et avec ce qu'on a. Elle est devenue chaste et pieuse à l'âge congruent. Elle observe toutes les pratiques de la religion. Elle va à la messe, les dimanches, les fêtes, elle... Eh bien, elle a raison d'aller à la messe, déclara Nanteuil. Allez, Michon, allume-moi une bougie pour chauffer mon rouge. Il faut que je me refasse les lèvres. Certainement, elle a raison d'aller à la messe. Mais la religion ne défend pas d'avoir un amant. Vous croyez ? Demanda le docteur. Oh, mais je connais ma religion mieux que vous, bien sûr. Une cloche lugubre sonna et la voix lamentable de l'avertisseur monta dans les couloirs. La petite pièce est terminée. Nanteuil se leva et passa à son poignet un ruban de velours avec un médaillon d'acier. Agenouillée, Madame Michon arrangeait les 3 plis vateaux de la robe rose, et la bouche pleine d'épingles d'un coin de lèvres exprimait cette maxime. Ce qu'il y a de beau quand on est vieille, c'est que les hommes ne peuvent plus vous faire souffrir. Robert de Ligny tira de son étui une cigarette. Vous vous permettez ? Et il s'approcha de la bougie allumée sur la toilette. Nanteuil, qui ne le quittait pas des yeux, vit, sous les moustaches ardentes et légères comme des flammes, les lèvres empourprées par la lumière, aspirer puis souffler la fumée. Elle en sentit une petite chaleur aux oreilles. Feignant de chercher ses bijoux, Elle effleura de sa bouche le cou de Ligny et lui murmura « Attends-moi après le spectacle dans un fiacre au coin de la rue de Tournon. » À ce moment, un bruit de voix et de pas monta du corridor. Les acteurs de la petite pièce regagnaient leur loge. « Docteur, passez-moi votre journal. »« Oh, il est bien ennuyeux, mademoiselle. »« Mais passez-le-moi tout de même. » Elle le prit et le tint en abat-jour au-dessus de sa tête. « La lumière me fait mal aux yeux. » Il était vrai que parfois une clarté trop vive lui donnait la migraine. Mais elle venait de se regarder dans la glace. Les paupières bleues, les cils enduits d'une pâte noire, les joues peintes, les lèvres dessinées au rouge en petit cœur, elle se trouvait un air de morte fardée, avec des yeux de verre, et ne voulait pas que Ligny la vît ainsi. Tandis qu'elle tenait son visage dans l'ombre, un grand maigre garçon entra dans la loge en se dandinant. Ses yeux sombres se creusaient au-dessus d'un nez en bec de corbeau. Sa bouche riait d'un rire immobile. À son long cou, la pomme d'Adam faisait une grande ombre sur son rabat. Il était costumé en huissier du répertoire. « C'est vous, chevalier ?»« Bonjour, mon ami, » dit gaiement le docteur Trublet. « Qui aimait les cabots, préférait les mauvais, avait un goût spécial pour chevalier. »« Et tout le monde, alors ?» s'écria Nanteuil. « Mais c'est plus une loge, c'est un moulin. » « Mais compliment tout de même à la meunière, » dit Chevalier. « Figurez-vous qu'il y a dans la salle un tas d'idiots. Vous ne me croirez pas ? Ils m'ont emboîté. »« Mais c'est pas une raison pour entrer sans frapper, » répondit Nanteuil hargneuse. Le docteur fit remarquer que M. de Ligny avait laissé la porte ouverte. Alors Nanteuil à Ligny, avec un accent de tendre reproche, « Ah, vraiment, vous avez fait cela. Mais quand on est entré, on ferme la porte aux autres. C'est élémentaire. » Elle s'enveloppa d'un manteau de flanelle blanche. L'avertisseur appela les artistes en scène. Elle prit la main que lui tendit Ligny, et cherchant des doigts le poignet, elle enfonça l'ongle à l'endroit où la peau près les veines est tendre. Puis elle disparut dans le corridor sombre. Chevalier, après avoir remis son costume de ville, s'assit dans une baignoire à côté de Madame Dulce. Il contemplait Félicie, menue et lointaine sur la scène, et se rappelant qu'il l'avait tenue entre ses bras dans sa mansarde de la rue des Martyrs, il pleura de douleur et de rage. Mais ils s'étaient rencontrés l'année précédente dans une fête donnée sous le patronage du député L'Écureuil, au bénéfice des artistes pauvres du 9e arrondissement. Il avait rôdé autour d'elle, muet, affamé, les dents longues et les yeux flamboyants. Et durant 15 jours, il l'avait poursuivie sans repos. Elle, froide et tranquille, avait semblé l'ignorer. Puis elle avait cédé tout d'un coup et, si brusquement que ce jour-là, en la quittant, radieux et surpris encore, il lui avait dit une bêtise. Il lui avait dit « Moi qui te croyais en porcelaine !» Et durant 3 mois entiers, il avait goûté des joies aiguës comme la douleur. Puis Félicie était devenue fuyante, lointaine, étrangère. Maintenant elle ne l'aimait plus. Il en cherchait la raison, sans pouvoir la trouver. Il souffrait de n'être plus aimé. Il souffrait plus encore d'être jaloux. Sans doute, aux premières et belles heures de son amour, il n'avait pas ignoré que Félicie eût un amant, Girmandel, huissier rue de Provence. Il en avait été malheureux, mais, ne la voyant jamais, il s'en faisait une idée si confuse et si mal déterminée, que sa jalousie se perdait dans le vague. Félicie lui disait qu'avec Grimardel, elle n'avait jamais pris aucune part à ce qui se passait, ni même essayé de feindre. Il la croyait. et c'était pour lui une vive satisfaction. Elle lui disait encore que depuis longtemps, depuis des mois, Girvandel n'était pour elle qu'un ami, et il la croyait. Enfin, il trompait l'huissier et sentait agréablement cet avantage. Il avait appris aussi que Félicie, qui achevait sa seconde année de conservatoire, ne s'était pas refusée à son professeur, mais la peine qu'il en avait ressentie était adoucie par la considération d'un usage auguste et séculaire. Maintenant, Robert de Ligny, lui aussi, lui causait d'intolérables souffrances. Depuis quelque temps, il le trouvait sans cesse auprès d'elle. Qu'elle aimât Robert, il n'en pouvait douter. Et si parfois il pensait qu'elle ne s'était pas encore donnée à cet homme, c'était sans raison et seulement pour soulager de temps en temps sa souffrance. Des applaudissements réguliers éclatèrent au fond du théâtre et quelques messieurs de l'orchestre, avec un léger murmure des lèvres, battirent des mains lentement et sans bruit. Nanteuil venait de donner sa dernière réplique à Jeanne Perrin. « Brava, brava, elle est délicieuse, cette petite !» soupira Madame Dulce. Dans sa jalouse rage, Chevalier fut mauvais camarade. Il posa un doigt sur son front. « Oh, elle joue avec ça !» Puis étendant la main sur son cœur, « Mais c'est avec ça qu'il faut jouer !»« Merci, mon ami, merci !» murmura Madame Dulce, reconnaissant dans ses maximes sa louange manifeste. Elle disait en effet qu'on ne joue bien qu'en jouant avec son cœur. Elle professait que, pour exprimer fortement une passion, il faut l'éprouver et qu'il est nécessaire de sentir les impressions qu'on doit rendre. Elle se donnait volontiers en exemple. Reine tragique, après avoir vidé sur la scène une coupe de poison, elle avait eu toute la nuit les entrailles en feu. Elle disait néanmoins « Oh, l'art dramatique est un art d'imitation, et l'on imite d'autant mieux un sentiment qu'on ne l'éprouve pas. » Et pour illustrer cette maxime, elle trouvait encore des exemples dans sa carrière triomphale. Elle poussa un long soupir. « Oh, cette petite est admirablement douée, mais il faut la plaindre. Elle vient dans de mauvais jours. » Et il n'y a plus de public, puis il n'y a plus de critiques, plus de pièces, plus de théâtre, plus d'artistes. C'est la décadence de l'art. Chevalier secoua la tête. Ben, ne la plaignez pas, elle aura tout ce qu'on peut désirer. Le succès, la fortune. Elle est rosse, la rosserie mène à tout. Tandis que les gens de cœur n'ont qu'à se mettre une pierre au cou et à se jeter dans la rivière. Mais moi aussi j'irai loin, moi aussi je monterai haut, moi aussi je serai rosse. » Il se leva et sortit sans attendre la fin du spectacle. Il ne remonta pas à la loge de Félicie, de peur d'y rencontrer Ligny, dont la vue lui était insupportable parce que, de la sorte, il pouvait s'imaginer que Ligny n'y était pas revenu. Éprouvant un malaise physique à s'éloigner d'elle, il fit 5 ou 6 tours sous les galeries éteintes et désertes de l'Odéon, descendit les degrés dans la nuit et prit la rue de Médicis. Les cochers sommeillaient sur leurs sièges en attendant la fin du spectacle, et sur la cime des platanes, la lune courait dans les nuées. Gardant un reste d'espoir absurde et doux, cette nuit-là, comme les autres nuits, il allait attendre Félicie chez sa mère. Madame Nanteuil habitait avec sa fille au 5e étage d'une maison du boulevard Saint-Michel, un petit appartement dont les fenêtres s'ouvraient sur le jardin du Luxembourg. Elle reçut Chevalier avec bienveillance, lui sachant gré d'aimer Félicie et de n'être pas aimée d'elle, et ignorant, par principe, qu'il eût été l'amant de sa fille. Elle le vit asseoir près d'elle, dans la salle à manger, où brûlait dans le poêle un feu de coq. À la clarté de la lampe, des revolvers d'ordonnance, des sabres avec la dragonne à gland d'or, luisaient sur le mur, autour d'une cuirasse de femme, armée de rondelles de fer blanc à l'endroit des seins, pièce d'armure que l'hiver précédent, Félicie, encore élève du conservatoire, avait portée pour représenter Jeanne d'Arc chez une duchesse spirite. Veuve d'officier et mère d'actrice, Madame Nanteuil, de son vrai nom Madame Nanteau, conservait ses trophées. « Ah, Félicie n'est pas encore entrée, monsieur Chevalier. Je ne l'attends pas avant minuit. Elle est en scène jusqu'à la fin du spectacle. » « Oui, je le sais, j'étais de la première pièce. J'ai quitté le théâtre après le 1 de la mère confidente. »« Oh, monsieur Chevalier, mais pourquoi n'êtes-vous pas resté jusqu'à la fin? Ma fille aurait été bien contente si vous étiez resté. Quand on joue, on aime avoir des amis dans la salle. » Chevalier répondit d'une façon ambiguë. « Oh, les amis, ce n'est pas ce qui manque. Vous vous trompez, monsieur Chevalier. Les bons amis sont rares. Madame Douce était là, sans doute. A-t-elle été contente de Félicie ? » Il ajouta très humblement : « Oh, je serais vraiment heureuse qu'elle eut du succès. » Il est si difficile de percer dans son état quand on est seul, sans appui, sans protection. Et elle a bien besoin de réussir, la pauvre petite. Chevalier n'avait pas le cœur à s'apitoyer sur Félicie. Il dit brusquement, en haussant les épaules, « Oh, ne vous inquiétez donc pas, elle réussira. Elle est comédienne dans l'âme. Elle a le théâtre dans le corps, elle l'a dans les jambes. » Madame Nanteuil sourit paisiblement, « Oh, la pauvre enfant, elles ne sont pas bien grosses, ces jambes. Félicie n'a pas une mauvaise santé, mais il ne faut pas qu'elle se fatigue. » Elle a souvent des vertiges, des migraines. » La bonne va mettre sur la table un plat de charcuterie, une bouteille et des assiettes. Cependant, le chevalier cherchait dans son esprit le moyen d'amener à propos une question qu'il avait sur les lèvres depuis le bas de l'escalier. Il voulait savoir si Félicie fréquentait encore Girmandel, dont il n'entendait plus parler. « Nous formons des soins proportionnés à notre état. » Maintenant, dans la misère de son existence, dans la détresse de son cœur, il désirait ardemment que Félicie, qui ne l'aimait plus, aimât Girmandel, qu'elle aimait peu. Et toute son espérance était que Girmandel la grandit pour lui, la garda pour lui, la prit toute et ne laissa rien d'elle à Robert de Ligny. L'idée que la jeune fille était avec Girmandel soulageait sa jalousie. Il tremblait d'apprendre qu'elle avait quitté l'huissier. Certes, il ne se serait jamais permis d'interroger une mère sur les amants de sa fille. Mais on pouvait parler de Girmandel à Madame Nanteuil, qui ne voyait rien que d'honorable dans ses relations de famille avec l'officier ministériel, homme riche, marié et père de deux filles charmantes. Il fallait maintenant, pour amener le nom de l'huissier dans la conversation, usé d'un artifice. Chevalier en trouva un qui lui parut ingénieux. « Ah, à propos, dit-il, j'ai rencontré Girmandel en voiture. » Madame Nanteuil ne fit point de réponse. « Oui, il passait en fiacre sur le boulevard Saint-Michel. Oh, j'ai bien cru le reconnaître. Je serais surpris si ce n'était pas lui. » Madame Nanteuil ne fit point de réponse. « Oui, sa barbe blonde, son visage rouge. Il est très reconnaissable, Girmandel. » Madame Nanteuil ne fit point de réponse. « Vous étiez très liés avec lui dans le temps, vous et Félicie. Est-ce que vous le voyez toujours ?» Madame Nanteuil répondit mollement. « Oh, monsieur Girmandel, ben oui, nous le voyons toujours. » À cette parole, Chevalier ressentit presque de la joie. Mais elle l'avait trompé. Elle n'avait pas dit la vérité. Elle avait menti par amour-propre et pour ne pas révéler un secret domestique qu'elle ne jugeait point à l'honneur de sa maison. Ce qui était vrai, c'est que, dans l'emportement de son amour pour Ligny, Félicie avait plaqué Girmandel, et l'huissier, qui pourtant était homme du monde, avait cessé net d'éclairer. Madame Nanteuil, à son âge, avait repris un amant par amour maternel et pour que sa fille ne fût pas dans le besoin. Elle avait renoué sa vieille liaison avec Tony Meyer, le marchand de tableaux de la rue de Clichy. Tony Meyer ne remplaçait pas avantageusement Girmandel. Il donnait peu d'argent. Madame Nanteuil, qui était sage et savait le prix des choses, n'en murmurait pas. Et elle était récompensée de son dévouement, car depuis 6 semaines qu'elle était aimée à nouveau, elle rajeunissait. Chevalier, qui suivait son idée, demanda « Girmandel, il n'est plus jeune. »« Bon, il n'est pas vieux, » dit Madame Nanteuil. « Un homme n'est pas vieux à 40 ans. Est-ce qu'il n'est pas ramolli ?»« Mais non, » répondit Madame Nanteuil avec tranquillité. Chevalier, songeur, se tut. Madame Nanteuil s'assoupit, puis tirée de sa somnolence par la bonne qui apportait la salière et la carafe, elle demanda « Et vous, monsieur Chevalier, êtes-vous content ?» Oh non, il n'était pas content. Les critiques s'entendaient pour lui casser les reins. Et la preuve qu'ils étaient coalisés contre lui, c'est qu'ils disaient tous la même chose. Ils disaient qu'il avait le masque ingrat. « Le masque ingrat !» s'écriait-il indigné. « Il devrait dire un masque prédestiné. » « Je vais vous expliquer, Madame Nanteuil. Je vois grand, c'est ce qui me fait du tort. Ainsi, dans la nuit du 23 octobre, qu'on répète en ce moment, je fais Florentin. 6 répliques, une panne. Mais j'ai grandi le personnage démesurément. Durville est furieux, il me coupe tous mes effets. » Madame Nanteuil, placide et bienveillante, trouva de bonnes paroles. Il y avait des obstacles, mais on finissait par les surmonter. Sa fille aussi s'était heurtée au mauvais vouloir de certains critiques. « Oh, minuit et demi !» dit Chevalier assombri. Félicie est en retard. Madame Nanteuil supposait qu'elle avait été retenue par Madame Doulce. « Madame Doulce se charge ordinairement de la ramener, et vous savez qu'elle n'est jamais pressée. » Chevalier se leva et fit mine de s'en aller pour montrer qu'il avait de l'usage. Madame Nanteuil le retint. « Mais restez donc, Félicie ne va pas tarder à rentrer. Elle sera bien contente de vous trouver ici. Vous souperez avec elle. » Madame Nanteuil s'assoupit de nouveau sur sa chaise. Chevalier, silencieux, attachait son regard au cartel pendu contre la muraille. Et à mesure que l'aiguille s'avançait sur le cadran, il sentait une plaie brûlante s'agrandir dans sa poitrine, et chaque menu coup du balancier le touchait au vif, aiguillonnait sa jalousie, en marquant les moments que Nanteuil passait avec Ligny. Car il était sûr maintenant qu'ils étaient ensemble. Le silence de la nuit, interrompu seulement par le bruit sourd des fiacres qui roulaient sur le boulevard, favorisait les images et les réflexions qui le torturaient. Il les voyait. Réveillée en sursaut par des chants montés du trottoir, Madame Nanteuil confirma la pensée sur laquelle elle s'était endormie. « C'est ce que j'ai dit toujours à Félicie. On ne doit pas se décourager. Il y a dans la vie de mauvais jours. » Chevalier fit signe qu'il y en avait. « Mais ce qui souffre, dit-il, non, que ce qu'il mérite. Il ne faut qu'un moment pour sauter tous les ennuis, pas vrai ?» Elle approuva. Certainement, il y avait des chances subites, surtout au théâtre. Il reprit d'une voix profonde, intérieure. « Si l'on croit que c'est pour le théâtre que je me fais du mauvais sang, le théâtre, je suis bien sûr de m'y faire une place un jour, et belle. Mais à quoi sert d'être un grand artiste si l'on n'est pas heureux ?» Il y a des ennuis bêtes qui sont terribles, des douleurs qui vous battent les tempes par petits coups égaux et réguliers, comme le tic-tac de cette pendule, et qui rendent fou. Il s'arrêta, le regard sombre de ses yeux creux contemplait la panoplie suspendue au mur. Puis il reprit. Ces ennuis bêtes, ces douleurs ridicules, si on les supporte trop longtemps, c'est qu'on est un lâche. Et il tâta l'étui du revolver qu'il portait constamment dans sa poche. Madame Nanteuil l'écoutait, sereine, avec cette douce volonté de ne rien savoir, qui était tout son génie dans la vie. Une chose terrible aussi, dit-elle, c'est la cuisine. Oh, Félicie est dégoûtée de tout. On ne sait que lui faire. À partir de ce moment, la conversation languissante se traîna en paroles détachées qui n'avaient que peu de sens. Madame Nanteuil, la bonne, le feu de coq, la lampe, l'assiette de charcuterie, dans une tristesse morne, attendait Félicie. Une heure sonna. La souffrance de chevalier était maintenant abondante et tranquille. Il possédait la certitude. Les voitures, plus rares, roulaient plus sonores sur la chaussée. Le bruit d'une de ces voitures s'arrêta devant la maison. Quelques instants après, il entendit le petit grillotis de la clé dans la serrure, le choc d'une porte, des pas légers dans l'antichambre. La pendule marquait 1h23. Il fut tout à coup agité de trouble et d'espérance. C'était elle. Mais qui sait ce qu'elle dirait? Peut-être qu'elle expliquerait le retard de la façon la plus naturelle. Félicie entra dans la salle à manger, les cheveux en désordre, l'œil brillant, les joues blanches, les lèvres avivées et froissées, lasse, indifférente, muette, heureuse, jolie, ayant l'air de garder sous son manteau qu'elle tenait de deux mains fermées sur elle, un reste de chaleur et de volupté. Sa mère lui dit « Oh, je commençais à être inquiète. Alors tu ne te défais pas ?» Elle répondit « Oh, j'ai faim. » Elle se laissa tomber sur une chaise devant la petite table ronde. Rejetant son manteau sur le dossier, elle découvrit son buste fin dans sa petite robe noire de pensionnaire et le coude gauche sur la toile cirée de la table. Elle se mit à piquer de sa fourchette les tranches de saucisson. « Est-ce que ça a bien marché ce soir ?» demanda Madame Nanteuil. « Oh, très bien, oui. Mais tu vois, chevalier est venu te tenir compagnie. C'est gentil à lui, n'est-ce pas ? Oh, chevalier, eh bien bon, moi, qu'il se mette à table. » Et sans plus répondre aux questions de sa mère, elle mangeait, avide et charmante, comme Cérès chez la vieille femme. Puis elle poussa son assiette et renversée sur sa chaise, les paupières mi-closes, la bouche entr'ouverte, elle sourit d'un sourire qui ressemblait à un baiser. Madame Nanteuil, ayant pris son vin chaud, se leva. « Oh, vous m'excuserez, monsieur Chevalier, j'ai mes comptes à mettre à jour. » Tels étaient les termes par lesquels elle annonçait ordinairement qu'elle allait se coucher. Restée seule avec Félicie, Chevalier lui dit violemment « C'est bête, c'est lâche, mais je t'aime en devenir fou. Tu entends, Félicie ?»« Mais pour sûr que j'entends, tu n'as pas besoin de parler si haut. »« C'est ridicule, n'est-ce pas ?»« Non, non, mais non, non, ce n'est pas ridicule, c'est... » Elle n'acheva pas. Il s'approcha d'elle, tirant sa chaise sous lui. « Tu es rentré à 1h25. C'est Ligny qui t'a reconduite, j'en suis sûr. Il t'a reconduite en fiacre. J'ai entendu la voiture s'arrêter devant la maison. » Comme elle ne répondait pas, il reprit. « Mais elle dit le contraire. » Elle se tut. Et il répéta d'une voix pressante et comme suppliante. « Mais dis que non !» Si elle avait voulu... D'une parole, d'un seul mot, d'un petit mouvement de la tête et des épaules, elle l'aurait rendu très doux et presque heureux. Mais elle garda un silence méchant. Les lèvres serrées, le regard lointain, elle semblait perdue dans un rêve. Il poussa un soupir rauque. Imbécile que j'étais, je ne pensais pas à cela. Je me disais que tu reviendrais chez toi, comme les autres jours, avec Madame Douce ou toute seule. Oh, si j'avais su que tu te ferais reconduire par cet individu! Eh bien, qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais su? Je vous aurais suivi, pardi. Elle arrêta durement sur lui ses prunelles trop claires. Ah, ça, je te le défends, tu m'entends? Ah, si j'apprends que tu m'as su une seule fois, je ne te revois plus. D'abord, tu n'as pas le droit de me suivre. Je suis libre de faire ce que je veux, peut-être. Suffoqué de surprise et de colère, il balbutia. Pas le droit, pas le droit, mais tu dis que je n'ai pas le droit? Non, tu n'as pas le droit. Et puis je ne veux pas. Son visage prit une expression de dégoût. C'est ignoble d'espionner une femme. Oh, si tu essaies seulement une fois de savoir où je vais, je te fiche la porte, là, et ce ne sera pas long. Alors, murmura-t-il, plein de stupeur, nous ne sommes rien l'un pour l'autre, je ne suis rien pour toi. Nous n'avons pas été ensemble. Voyons, Félicie, rappelle-toi. Mais elle impatiente, mais qu'est-ce que tu veux que je me rappelle? Mais Félicie pense que tu t'es donné à moi. Mais tu ne veux pas pourtant, mon cher, que j'y pense toute la journée. Ce serait abusif. Il la regarda quelque temps avec plus de curiosité que de colère et lui dit, moitié amer et moitié doux. Ben, on peut dire que tu es rosse. Bon, sois-le, Félicie. Sois-le tant que tu voudras. Qu'est-ce que ça fait puisque je t'aime? Tu es à moi, je te reprends. Je te reprends et je te garde. Voyons, je ne peux pas souffrir toujours comme une pauvre bête. Écoute, je passerai l'éponge. Nous recommencerons notre amour. Et cette fois, ce sera très bien. Et tu seras à moi pour toujours, à moi seul. Je suis un honnête homme, tu sais. Tu peux compter sur moi. Et je t'épouserai quand j'aurai une position. Elle le regarda avec une surprise dédaigneuse. Il crut qu'elle avait des doutes sur son avenir dramatique et pour la dissiper, il dit, dressé sur ses longues jambes, « Tu ne crois pas à mon étoile, Félicie? Tu as tort. Je me sens capable de grandes créations. Qu'on me donne un rôle et tu verras. Et j'ai pas seulement la comédie en moi, j'ai le drame, j'ai la tragédie. » Oui, oui, la tragédie. Je sais dire les vers. Et c'est un talent qui se fait rare aujourd'hui. Aussi, ne crois pas, Félicie, que je te fasse un affront en t'offrant de t'épouser loin de là. Nous nous marierons plus tard, quand ce sera possible et convenable. Rien de presse, bien sûr. En attendant, nous reprendrons nos bonnes habitudes de la rue des Martyrs. Mais tu te souviens, Félicie, nous y avons été si heureux. Le lit n'était pas large, mais nous disions, ça ne fait rien. Bien, j'ai maintenant deux très belles chambres dans la rue de la Montagne Sainte-Geneviève, derrière Saint-Étienne-du-Mont. Il y a ton portrait sur tous les murs. Tu retrouveras le petit lit de la rue des Martyrs. Mais écoute-moi bien, j'ai trop souffert. Je ne veux plus souffrir. J'exige que tu sois à moi seul. » Tandis qu'il parlait, Félicie était allée prendre sur la cheminée les cartes avec lesquelles sa mère jouait tous les soirs et elle les étalait sur la table. « À moi seul, tu m'entends, Félicie ?»« Oh, laisse-moi tranquille, je fais une réussite. Écoute-moi, Félicie. J'exige que tu ne reçoives plus dans ta loge, cet imbécile. » Examinant ses cartes, elle murmura, « Oh, toutes les noires sont en bas. » « Oui, c'est imbécile, parfaitement. » « C'est un diplomate, et le ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui, c'est le refuge des incapables. » Il baissa la voix, « Félicie, dans ton intérêt, comme dans le mien, écoute-moi. » « Ne crie donc pas, maman dort. » Il reprit d'une voix sourde, Sache bien que je ne veux pas que Ligny devienne ton amant. Elle releva sa petite tête méchante. Et s'il l'est? Il fit un pas vers elle, sa chaise levée, et la regarda d'un œil fou, en riant d'un rire fêlé. S'il l'est, mais il ne sera pas longtemps. Et il laissa retomber sa chaise. Maintenant, elle avait peur. Elle s'efforça de sourire. « Tu vois bien que je plaisante. » Elle réussit, sans trop de peine, à lui faire croire qu'elle lui avait parlé de cette manière seulement pour le punir, parce qu'il devenait insupportable. Alors il se calma. Elle lui dit qu'elle était lasse, qu'elle tombait de sommeil. Il se décida enfin à s'en aller. Sur le palier, il se retourna et dit « Félicie, je te conseille, pour éviter un malheur, de ne plus revoir Ligny. » Elle lui cria par la porte entrebâillée. « Tape au carreau de la loge pour qu'on t'ouvre. »